Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Nous avons évoqué beaucoup de sujets depuis ce matin, 9h, des sujets que vous pouvez retrouver en podcast, évidemment. Vous êtes extrêmement nombreux à nous écouter en différé. Vous téléchargez l'application et vous nous écoutez tranquillement. Sachez qu'on a évoqué évidemment cette finale du top 14 au Stade de France entre le Stade Toulousain et l'UBB ce soir à 21h05. Dispositif exceptionnel sur RMC. Nous avons parlé de basket avec les forfaits de Victor Wembanyama, d'Evan Fournier, de Rudy Gobert pour le prochain Euro. On a parlé de Wimbledon, on a évoqué la situation de l'Olympique Lyonnais rétrogradé en Ligue 2. Bref, vous retrouvez tout ça tranquillement sur notre application. Alors dans quelques instants, la seconde des GG, nous allons parler des revenants Paul Pogba, Olivier Giroud, qui vont signer à Monaco et à Lille. Les champions du monde 2018, sont-ils encore des bonnes affaires? Nous nous poserons la question. 11h30, un dossier évidemment passionnant qui tourne un peu au vinaigre. Canal+ jette l'éponge, c'est un nouveau coup de tonnerre sur les droits de TV de la Ligue 1. On va tout vous expliquer dans une petite trentaine de minutes. Et puis 11h45, le débat caché. Mais GG, vous ne savez rien et pourtant il va falloir débattre. Et je vous propose quelque chose de bonne facture aujourd'hui. Ça va vous plaire et ça va vous faire réagir forcément. Alors vous le savez aujourd'hui, chers auditeurs, on a un magnifique cadeau à vous faire gagner. Dans une semaine, samedi prochain, c'est le grand départ du Tour de France 2025. Et avec Skoda, le partenaire majeur de la Grande Boucle, nous vous proposons de vivre une expérience unique lors de la 4e étape du Tour. C'est le mardi 8 juillet entre Amiens Métropole et Rouen. Vous allez venir la veille de la course, dîner la nuit dans un bel hôtel. Le jour de l'étape, il y aura une sortie vélo avec les ambassadeurs de la marque. La visite du village départ, les paddocks évidemment, le départ en amont des coureurs, ensuite il y aura le survol du peloton en hélicoptère, le déjeuner, le village arrivé pour voir arriver ce peloton, et puis la nuit à l'hôtel VIP. Bref, un package complet avec la personne de votre choix pour gagner ce magnifique cadeau avec Skoda. Vous envoyez étape dès maintenant au 7-32-16, étape au 7-32-16. Le grand gagnant sera tiré au sort là dans quelques minutes. Vous pouvez encore jouer et il sera en direct avec nous avant midi. Pour débuter cette troisième heure d'émission, mais GG, on va débuter avec cette citation de Denis Charvet, qui a dit un jour, dans une bonne affaire, il y a toujours un pigeon. Si vous ne savez pas qui c'est que c'est vous.
RMC, les grandes gueules du sport, passe la seconde.
Voyons, circuit branché, convecteur temporel, temporisé.
Les milliers d'assurés attaquent des forces polaires.
Elle sert à voyager dans le temps, cette machine.
Olivier Giroud, on est ensemble.
Oui, Giroud.
Oui,
Olivier Giroud.
Parti, ça veut dire qu'on va voir notre avenir.
Casser les manches comme Samuel.
La tête de qui? De Titi. Samuel Umtiti.
C'est demain que nous retournons vers le futur.
Amen. Ballon de la part de Mbappé, Giroud, le record pour Giroud.
Nom de Dieu.
Ramener la coupe à la maison. Allez les Bleus.
Que des bons souvenirs évidemment avec ces deux joueurs. Paul Pogba, 32 ans, aucun match depuis le 3 septembre 2023. Olivier Giroud, 38 ans, exilé aux États-Unis depuis un an, 5 buts en 37 matchs. Les deux champions du monde 2018 sont en passe de rentrer au bercail. Paul Pogba à Monaco pour 2 ans, Olivier Giroud à Lille pour 1 an, deux joueurs emblématiques évidemment du football français, mais deux paris pour ces deux clubs pour la prochaine saison. La musique qui fout les jetons et cette question. Les champions du monde 2018 sont-ils encore des bonnes affaires? Oui ou non? Simon Dutin.
Rager les jetons, oui. Oui, j'y sais.
Fred Weiss.
J'ai pas les jetons, non.
Vous n'êtes pas d'accord ce matin, j'ai l'impression. Hein?
On est rarement
jamais,
d'accord.
Hein, rarement. Rarement. Philippe Saint-André.
Oui pour le championnat de France, non pour les clubs.
Ok. Denis Charvet.
J'aurais tendance à dire non.
Plutôt non. Alors avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut les GG, salut à Arthur. Tous.
Alors le retour des icônes françaises en Ligue 1, ça n'a pas toujours été une franche réussite.
Oui, et parmi eux, plusieurs champions du monde 98. Après 7 ans passés au Bayern Munich, Bichente Lizarazu décide de faire son retour en France. L'arrière-gauche choisit Marseille, mais rapidement, l'aventure tourne au cauchemar. Seulement 15 matchs disputés en Ligue 1. Un choix aussi non payant pour Patrice Evra. Le défenseur pose aussi ses valises au club phocéen pour se relancer. Bilan de son aventure sur la Côte d'Azur, 21 matchs seulement et un but. Un retour manqué que Fabien Barthez a lui aussi connu. Après avoir brillé à Manchester United, il revient à l'OM mais enchaîne les erreurs. Expulsé en finale de la Coupe UEFA, cracha sur un arbitre lors d'un match amical en 2006. Il annonce finalement mettre un terme à sa carrière de footballeur. Mais il existe aussi des joueurs qui ont brillé à leur retour dans l'Hexagone, comme Claude Makélélé à Paris. Devenu un cadre à Chelsea, il brille au PSG en étant titulaire et capitaine malgré ses 38 ans. Il décide lui aussi d'arrêter le football au haut niveau après son aventure parisienne, après avoir disputé 118 rencontres entre 2008 et 2011.
Merci beaucoup Arthur Perrault d'avoir interrogé l'histoire. Évidemment, c'est important avant d'entamer ce débat, même si les scénarios sont peut-être différents pour ces joueurs. Mais force est de constater que ça n'est pas toujours gagnant comme retour, même si nous serions très heureux de les accueillir de nouveau. Olivier Giroud, Paul Pogba, toutes les informations sur RMC Sport, ce n'est pas encore officiel, mais ça devrait l'être dans les prochaines heures pour les deux joueurs. 11h12, on se pose cette question. Est-ce que ce sont encore de bonnes affaires, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio? J'ai un oui, vraiment franc et massif. Alors on va commencer avec ça, du positif. Pourquoi oui, Simon Dutin?
Il y a nécessairement un petit peu de méthode Coué là-dedans, parce que j'ai envie d'y croire. Si on évacue l'argument qui a été donné par Philippe et qui est incontestable, celui de l'exposition que ça peut donner à notre Ligue 1, qui s'étouffe pas quand même avec les stars et les événements ailleurs qu'à Paris. Si on parle de ces joueurs, moi j'en ai parlé dans l'after cette semaine, Olivier Giroud, c'est un joueur moi qui m'a fait poser le genou à terre, que j'appréciais pas particulièrement, que j'ai trouvé surcoté, qu'à chaque étape de sa carrière j'ai vu trop petit pour les objectifs. Il m'a prouvé que j'avais tort à chaque fois. Voilà, lorsqu'il signe à Montpellier depuis Tours, je me dis bon allez Montpellier, pourquoi pas, mais ça va pas donner grand-chose. Ils sont champions de France, il est meilleur buteur. Il part à Arsenal, je me dis voilà, Arsenal qui fait vraiment n'importe quoi, il est pas taillé là-dessus. Il a été un très bon attaquant d'un petit Arsenal, d'un Arsenal déclinant. Il part à Chelsea, tu te dis c'est un choix stupide. Il marque en finale de Coupe d'Europe. Il a été un immense attaquant dans un tout petit AC Milan qui reste malgré tout une institution, une cathédrale du football. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Qu'il a réussi, c'est prodigieux. C'est un phénix. Écoute, j'y viens. C'est un phénix qui nous a toujours prouvé qu'il savait revenir, qu'il savait défier les pronostics. En effet, ça s'est pas bien passé à Los Angeles. C'est le seul truc que je comprends pas bien dans cette histoire, c'est que généralement, à ce stade de ta carrière, quand tu pars aux États-Unis, c'est ciao tout le monde. J'en ai terminé avec le foot de haut niveau. Je pars un petit peu en semi-retraite, même si il faut plus dire ça parce qu'on nous dit que la MLS est devenue compétitive. Ça s'est pas bien passé à Los Angeles. Il est pas interdit de penser que il y a eu un problème d'acclimatation, qu'il y a eu un problème, je sais pas, d'intégration, de relation avec son entraîneur, avec ses coéquipiers. Bon, je suis persuadé que pour Lille, à la condition, et c'est très important, que Lille n'en fasse pas le mal alpha de son attaque et se dise pas que Lille va atteindre les objectifs qu'il se fixe forcément un petit peu élevés avec Olivier Giroud titulaire 90
okay, joker de luxe,
par match et un Paul Pogba qui n'a pas joué pendant 2 ans et qui pour moi aurait pu être une légende du football s'il avait réussi à stabiliser un petit peu son utilisation en club. Je pense qu'on l'a vu comme un numéro 10 alors que ça aurait pu être un des plus grands numéro 6 de l'histoire du football. Et il est très affûté, on le voit, il communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Et là encore, avec Zakaria Kamara à Monaco, tu pars pas en te disant c'est Pogba qui va porter l'équipe. En termes d'expérience, d'accoutumance au très haut niveau que ces deux clubs veulent atteindre ou auxquels ils veulent se maintenir, je pense que ces deux joueurs, s'ils restent en bonne condition physique, peuvent évidemment apporter énormément de choses.
C'est vraiment la méthode Coué, mais bon, après ça vient de son envie, de son désir de voir, de revoir ses joueurs dans notre championnat. Mais après, moi, pourquoi j'ai dit non? Parce que c'est un pari très risqué, très risqué. Ben alors, c'est vrai que ça coûte une fortune pour Lille, parce qu'ils vont le payer quoi, 3 millions?
C'est un pari plus risqué pour le joueur ou pour le club?
C'est pour le joueur.
Moi, je trouve que c'est terrible pour le joueur.
On va en parler.
Je ne comprends pas la démarche d'Olivier Giroud. que j'aime beaucoup, enfin que j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai qu'il a, il y a un délit de sale gueule avec lui. Ouais. Moi, j'avais le même sentiment que toi.
On en a souvent parlé, donc on va pas revenir là-dessus. Non, tout mais, le monde. Oui, vas-y, vas-y.
Mais il a 38 ans. Tu oublies tout ce que tu as dit, tout en
arrivant. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Il y a toujours eu des raisons de dire. Oui, à l'époque, c'était pas l'âge, c'était le style de jeu. Surtout, il allait pas assez vite. Il n'était pas assez complet. L'équipe était trop.
Il revient du championnat de troisième division, on va dire, française, dans un championnat de Ligue 1 qui est extrêmement dur physiquement. C'est là où j'ai le vrai doute pour lui. Je trouve qu'il prend des risques insensés de revenir à 38 ans dans le désir de s'imposer. Mais tant mieux, je veux dire, c'est plutôt courageux. Mais je trouve, j'ai un vrai doute par rapport à la constante de performances tout au long de l'année dans un championnat qui est extrêmement périlleux. Tout simplement. Et Pogba, alors là, c'est la grande interrogation, le grand point d'interrogation, parce que là, effectivement, Pogba, on l'a tous adoré, mais là, revenir après 4 ans, n'ayant aucune garantie, d'un point de vue physique, je parle, physique, je souhaite qu'il réussisse, c'est pas ça. Mais je me dis, revenir dans un championnat français, alors évidemment, dans l'objectif de faire la Coupe du Monde.
Il est plus jeune, quand même. Il est plus jeune, il a 32 ans.
Il est plus jeune, il a affûté. Mais moi, ce que je crains, c'est, si tu veux, c'est son corps, comment il va suivre par rapport à la multiplicité d'efforts de toi de
c'est la seule interrogation pour
c'est
moi.
Interrogation parce qu'après la qualité technique elle est là toujours là, il y a aucun problème, le son leadership il est là, son aura elle est là, mais c'est putain, mais c'est, j'ai peur qu'il se blesse.
Ok. Philippe Saint-André.
Moi c'est surtout sur Olivier Giroud. Moi j'ai aimé parce que voilà, c'était un travailleur de l'ombre, son efficacité incroyable, il part meilleur marqueur de l'équipe de France, il va aux États-Unis, voilà, il est en semi-retraite et là il revient, il a tout à perdre. Il a tout à perdre sur son image si jamais il est pas bon. Il a 38 ans, donc déjà sa vitesse c'était pas son point fort. Donc là, s'il avance pas, on va dire il est fini. Sincèrement, ça a été un seigneur. Il a tout gagné. Il a joué en France, en Angleterre, en Italie. Il a été champion du monde. Je trouve que pour lui, c'est un risque incroyable de revenir en France. Alors pour Lille, ils font un coup, pourquoi pas. Pour le championnat
ils
de France,
ils ont fait le coup avec Umtiti déjà, ouais. C'est moyennement pas sûr.
Mais c'était pas le même contexte, voilà.
Alors que
Pogba, c'est différent. Il est jeune, il a 32 ans, il a pas joué depuis quoi, 2 ans, 3 ans.
Deux ans.
Oui, puis même, tu peux même remonter à l'Euro 2021. Ouais. Le prime Pogba, on l'a pas vu depuis au moins 4 ans, ça c'est sûr.
Mais sur Olivier Giroud, sincèrement, il a de sacrés coronets pour revenir dans le championnat.
Est-ce que c'est pas un peu fou? Parce que t'appelles ça des coronets, moi je trouve ça complètement fou.
C'est courageux et fou.
C'est ouais, courageux, c'est, voilà, c'est mais c'est là que c'est beau.
Et très risqué. C'est très risqué surtout pour lui et pour son image.
Je le répète, c'est un mec qui a passé sa carrière à prouver à ses détracteurs qui étaient nombreux qu'ils avaient tort. Et on est à un stade où là, évidemment, il y a des arguments comme il y en a eu à chaque fois. Il y a des arguments, il y a l'âge, il y a le fait que ça n'a pas marché en MLS. D'accord. Mais moi, sans vous convoquer les Zlatan, les Romario, les Totti, qui sont. Excuse-moi. Bon, ben, Giroud, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. C'est pas une légende du foot français. Bon, ben, évidemment, encore une fois.
J'ai pas dit ça.
On en revient. Mais non, mais parce que j'ai déjà pris
Zlatan et Romario, là, on va pas s'entendre.
C'est à moi que tu parles. Je te parle de mecs qui ont été performants jusqu'à l'âge de.
Il avait changé son image.
Jusqu'à l'âge de 40 ans.
Parce qu'il avait réussi à convaincre à peu près tout le monde que ça allait bien. Et là, il peut se refaire taper dessus énormément.
Et ben, pour parler très foot, je mets ces légendes donc de côté, puisqu'Olivier Giroud n'est pas invité. Il est à la table des enfants. Mais évidemment, comme tout au long de sa carrière.
Mais non, mais tu
veux dire, Romario. Quagliarella, meilleur buteur de Serie A avec la Sampdoria. À 36 ans, il allait en avoir 37. Voilà. Bon, personne l'a mis au frigo. Aduriz, attaquant légendaire de l'Athletic Bilbao. Pareil, il rinçait tout le monde avec son équipe jusqu'à l'âge de 36-37 ans.
Est-ce qu'entre temps, il était parti en retraite?
Claudio Pizarro, le Péruvien, il était à.
Attention, c'est pas l'after ici.
Il a été. Ah ben ouais, mais écoute, je vous donne juste des exemples.
Explique-nous.
Je vous donne juste des exemples d'avant-centre qui sont restés performants.
Ils avaient quel âge?
Ils avaient l'âge que
15. Ils avaient 35, 36 ans, 38 ans, 2 ans de plus.
Non, mais surtout.
Sur la vitesse, sur l'explosivité, c'est complètement différent.
C'est des mecs qui ont été confrontés au très haut niveau tout le temps, qui n'ont pas arrêté le très haut niveau. Il est parti à l'Auxonne Jeunesse. Tu peux dire ce que tu veux, même si ça a progressé, c'est pas le même niveau. Et juste pour revenir la question initiale, pour moi, il faut juste se rendre compte de qui on est. La Ligue 1 ne pourrait pas se permettre, à part le PSG, ce type de joueur en état de forme complet. Donc forcément, c'est un pari. Donc forcément, c'est un pari fou. Moi, Giroud, je suis désolé, quand il arrive et qu'on me dit il va remplacer Jonathan David.
Mais juste,
eh ben, ça m'inquiète beaucoup.
Tu ne m'as pas écouté parce que j'ai dit si c'est pour en faire l'option numéro 1 de ton attaque.
Pour l'instant, c'est ce qu'il y a.
C'est pas la question. Lille, ils sont exactement. Et Lille, ils sont évidemment, ils sont pas stupides. Ils sont en train de bosser sur un dossier d'un jeune déjà performant.
Donc, t'achètes une image. T'achètes quelqu'un qui va jouer de temps en temps et t'achètes une image. Et dans ce cas-là, dans ce contexte-là, Pogba et Giroud, c'est une vraie image.
Tu t'achètes des leaders.
Je suis d'accord avec toi. Tu t'achètes en termes d'image.
Tu t'achètes des leaders, des mecs qui sont montés au sommet et qui redescendent un petit peu, mais qui disent, les gars, je connais la route, je peux vous emmener, que ce soit sur le terrain mais ou dans le vestiaire, dans la discipline, une expérience, un respect dans un vestiaire lillois qui est à reconstruire parce qu'il y a beaucoup de départs, il y a des fins de contrat. Un vestiaire lillois qui est composé,
sera capable de remobiliser tout le monde.
Tu n'en sais rien, peut-être
que tu dis. Si tu n'en sais rien, c'est que c'est un pari. Et c'est un pari, c'est risqué.
Je crois au leadership de Pogba à Monaco, autant sur Giroud, je n'ai aucune certitude.
Bah, personne n'a de certitude, mais je veux dire, Giroud, si vous me dites qu'avec une bonne préparation, il n'a pas 30 minutes efficaces dans les jambes, tu le fais rentrer pour la dernière demi-heure à la réception des centres quand l'équipe adverse est un petit peu fatiguée.
Mais c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi.
Si tu dis qu'il n'a pas de quoi fatiguer les défenses de Ligue 1.
Donc il a signé à Lille pour faire 30 minutes chaque match.
Mais peut-être.
Mais je trouve que.
En tout cas,
avec son palmarès, est-ce qu'il est? Je suis désolé.
En tout cas,
c'est un risque fou.
Mais c'est pas le risque, c'est pas Lille qui le prend. Le risque, c'est le joueur qui le prend.
Oui, c'est ce que je dis. Le joueur prend un risque complètement, mais Lille en prend un petit peu parce que finalement, en le prenant,
ça dépend.
Oui, mais ça dépend qui tu mets autour. Philippe, ça dépend qui tu mets autour. Effectivement, si tu arrives à bien entourer Giroud, ça peut être sympa. Si tu fais jouer peu ponctuellement, etc. Mais sinon, c'est un vrai risque quand même. Si c'est ton attaquant numéro 1, c'est compliqué.
C'est assez fou tout de même parce que c'est assez rare dans l'histoire du foot qu'un joueur qui parle, même si c'est vrai que ce mot n'est pas très beau, en pré-retraite aux États-Unis, justement pour terminer sa carrière tranquillement, qu'il revienne se mettre dans le circuit européen, dans le circuit de la Ligue des Champions, dans le circuit compliqué, en fait.
C'est ça qui est étonnant, Jean-Christophe. C'est pour ça. Moi, je suis très étonné que personne ne lui ait fait une telle proposition l'été dernier avant qu'il prenne la décision. Alors peut-être que c'était plus clair dans son esprit à l'époque, mais. En effet, justement, ce choix très surprenant par rapport à la trajectoire là, crépusculaire sur laquelle il s'engageait, eh ben, ça interroge sur ce qui s'est passé à Los Angeles. Et la sauce, à l'évidence, n'a pas pris. Il y a des raisons pour ça, et peut-être que ça lui a donné un regain d'énergie, qu'il en a encore sous le capot, et qu'il se dit bon ben voilà, les États-Unis, c'est pas pour moi. En tout cas, je me sens encore prêt pour le.
Il veut revivre des stades de pleins, la pression des matchs. Des gros matchs, mais.
Et même s'il ne marque pas beaucoup, qu'il a peu d'impact sur le jeu, ce sera une bonne affaire pour la billetterie lilloise, pour l'exposition du club.
C'est deux choses différentes. Évidemment, en termes d'image, c'est positif, évidemment. Mais c'est sportivement de la question, j'imagine.
C'est les deux, mon capitaine.
Alors.
C'est les deux, mon capitaine. Florian nous appelle au 32-16. Il veut réagir à notre débat. Bonjour, Florian.
Bonjour à tous.
Bon, on a beaucoup parlé d'Olivier Giroud, on va aussi parler de Paul Pogba, même si c'est vrai que ça traîne depuis quelques semaines et on en avait déjà parlé dans cette émission. Florian, tu veux répondre quoi à cette question? Alors, est-ce que les champions du monde 2018 sont encore des bonnes affaires?
Alors, pour Pogba, je dirais plus un oui, parce que lui, il revient de blessure, donc lui, il a tout à prouver, surtout dans une équipe qui joue le haut de tableau. Comme vous avez dit, Giroud, lui, c'est plutôt un pari. Et moi, j'attends beaucoup de Pogba pour redonner de l'image. Ça va donner de l'image au championnat français, car ils sont en train de reconstruire une équipe totalement. Et donc, ça peut être pas mal pour Monaco et le championnat.
Ok, pour Monaco et pour le championnat. Pour Paul Pogba, il n'y a pas vraiment de débat. C'est-à-dire que Olivier Giroud, tout le monde est heureux de le revoir en France. Là bien non sûr. Plus, il n'y a pas de débat. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur est-ce qu'il pourrait apporter et donner à cette équipe lilloise. Pour Pogba, en revanche, il n'y a pas de doute, c'est génial qu'il aille à Monaco.
Oui, c'est plutôt une bonne chose. On sait qu'il sera plutôt en forme. Après, il faut voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il va s'épuiser sur le terrain, etc. Mais sur le papier, c'est quand même un pari. Parce qu'on sait, ça fait quelques temps qu'il n'a pas joué. Mais 2 ans, c'est 4 ans qu'il n'a pas son niveau. Donc on demande à voir. Mais sur le papier, il y a plus de chance. Après, que Giroud en théorie.
C'est un pari que je pense qu'il pouvait se permettre.
Et oui, je pense.
Dans la mesure où il a rien coûté, il va coûter son salaire.
Il a un gros historique de blessures.
Oui, mais moi la seule, exactement. Blessure et surtout blessure musculaire. Moi, c'est ça qui m'inquiète.
Le gros point d'interrogation.
S'il part au stand au bout de 2 matchs, ça peut être.
Ou pendant la préparation. Le pire, c'est de se blesser parce que un joueur comme ça qui a pas joué aussi longtemps, il a besoin d'une bonne préparation. Et s'il a
commencé individuellement. depuis longtemps.
Oui, mais si t'as un problème musculaire dès début juillet, ça risque d'être compliqué.
Vous parlez d'Olivier Giroud qui, pour vous, pour son image, pour sa carrière, même si Lizarazu qui est revenu à l'OM, Patrice Evra qui est revenu à l'OM, ça s'est pas bien passé.
Ça c'est le karma, Lizarazu qui signe à Marseille, excuse-moi, en rentrant en France, il fallait pas s'étonner que ça marche pas.
Ok, ça c'est le Bordelais évidemment qui le dit. Non,
oui.
Je veux dire, on n'a pas retenu que ça de leur heureusement. Lizarazu pour nous c'est le Bayern Munich, c'est l'équipe de France. Evra c'est Monaco, c'est Manchester, vois, c'est pas Marseille.
Mais Olivier Giroud c'était le mal aimé et je trouve qu'il a bien fini sa carrière.
Ah oui. Okay.
C'est pour ça que ça m'inquiète parce que c'était le mal aimé, c'était le besogneux, on a été champion du monde mais et il a plus défendu qu'attaqué. Mais moi j'adorais le joueur parce qu'il avait un altruisme incroyable.
Mais même une saison ratée, Philippe, ça ternira pas l'image de sa
famille. Je comprends, il est sur la bascule toujours, Giroud.
Il est toujours sur la bascule.
Et c'est vrai que
mais il a l'habitude,
c'est sa routine.
Oui,
il a été habitué à ça depuis 15 ans.
Quand c'est fini, en fait. C'est ça le problème. Et quelle image tu vas laisser?
Ah bon.
Et Paul Pogba, est-ce que lui, il joue gros ou franchement?
Non, au contraire, lui, il a tout à gagner.
C'est quasiment du bonus pour le grand public.
Si
il était
ça
à la
réussit,
retraite.
Lui, t'imagines, il revient en équipe de France, il fait le Coupe
du mondial.
Monde.
Le mondial, ça serait fou.
Voilà, même s'il part de très très loin, tout est envisageable avec lui, si il se blesse pas.
Merci Florian d'avoir composé le 32-16. Merci de ta fidélité. On parlait de l'attractivité pour la Ligue 1 avec ses retours des champions du monde 2018. Ben justement, la Ligue 1, on en parle. Mauvaise nouvelle hier. Canal jette l'éponge. On vous donne toutes les dernières informations. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Avec Simon Dutin, Denis Charvet, Philippe Saint-André, Fred Weiss. Fred Weiss qui est avec nous. Si vous n'avez pas vu son documentaire, le film. Non, je ne parle pas de l'abbé Pierre pour une fois. Tu vois, je suis tranquille.
Je suis un peu inquiet quand même.
J'ai sorti ta mâchoire serrée. Pas du tout. Je parle de Little Big Fred chez nos amis de Canal+. Un reportage exceptionnel autour de ta vie, de ta carrière. Donc bravo, mon cher Fred, pour ce documentaire. Bravo aux copains de Canal+, si vous voulez l'admirer, Little Big Fred, pour en savoir un peu plus sur notre grande gueule du sport.
Tu fais la suite ou pas, non?
Little Big Fred 2.
Non, il a arrêté les suites. Parce que
et les biopics.
On t'a pas demandé l'abbé Pierre 2, non? On va pas retourner le truc.
C'est dommage.
Non,
quand même.
Bon, on y a pensé, Big Fred, mais non. En tout cas, bravo, mon cher.
Ça mériterait, en tout cas.
Mon cher Fred. Il est 11h31. Ça mériterait.
Avec ce qu'on a appris depuis.
Oui, bon. C'est vrai que ça mériterait.
Oui, je pense
que
d'ailleurs, il faut réfléchir.
Ouais.
Il y a de la matière.
Je vais le produire, tiens. T'es dedans?
Non.
Tu es libre cette année, t'es libre.
Oh. Dans 10 minutes, le débat caché avec vous, mais tout de suite, on parlait de Little Big Fred sur Canal+. On va justement parler de Canal.
RMC, le dossier des GG.
C'est un nouveau coup de tonnerre pour le foot français. Alors que LFP Média prévoyait de rencontrer Canal+ et beIN Sport pour sceller un accord de distribution de la future chaîne de la Ligue, le patron de la chaîne cryptée, Maxime Saada, a annoncé ne pas vouloir poursuivre les discussions. Alors pour quelles raisons? On va retrouver notre spécialiste droit télé, c'est Arthur Perrault. Rebonjour Arthur.
Rebonjour Jean-Christophe, rebonjour les GG.
C'est un nouveau tournant pour la nouvelle chaîne de la Ligue.
Oui, et cette fois le message est clair. Dans un entretien accordé au journal L'Équipe, le président de la chaîne crypté Maxime Saada ne mâche pas ses mots. Je le cite, Canal+ jette l'éponge, nous avons choisi de renoncer à date. Nous considérons que les conditions ne sont pas réunies pour que Canal+ distribue la nouvelle plateforme de la Ligue 1. Selon Saada, le prix de l'abonnement envisagé par la Ligue de football professionnel est trop élevé. C'est la principale cause de ce refus sur Canal. Le pass 100% Europe s'élève aujourd'hui à 10 euros. On voit mal comment vendre une chaîne qui ne comporte pas la totalité de la Ligue 1 la première année, autour de 20 euros, explique le patron du média du groupe Bolloré. Après plusieurs années de tensions avec la LFP, Canal+, semblait pourtant avoir renoué des liens avec l'institution, notamment après l'arrivée de Nicolas Taverneau à la tête de LFP Média. Ces tensions ne semblent aujourd'hui pas totalement effacées.
Mais oui, les informations d'hier soir, donc c'était important d'en parler ce matin. Merci beaucoup Arthur Perrault pour ces précisions. J'ajoute que selon L'Équipe, il y a d'autres chiffres à vous donner. Canal était prêt à mettre 100 millions d'euros de minimum garantie pour gérer évidemment tout le business autour de la chaîne de la Ligue 1 et codiffuser l'affiche du dimanche soir. La LFP en attendait le double, voulait 200 millions d'euros de garantie. Comment vous réagissez à cette information, Denis Charvet?
Je réagis, ça aurait été mieux de... Effectivement, c'est un coup de tonnerre. Hein. Ce matin, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, c'est incroyable de faire machine arrière alors que tout était, je pense, carré et que ça allait se faire. Puis surtout, je pense que le football a perdu beaucoup en se séparant de Canal. Ils sont tirés une balle dans le pied le jour où ils se sont séparés de Canal. Et puis ça a été un divorce, et on le voit, qui reste dans les mémoires de Canal, parce qu'ils n'arrivent pas à revenir en arrière, de revenir dans la Ligue 1. Puis je comprends Canal aujourd'hui, ils ont la Champions League qui marche très fort.
Qui coûte très cher.
Et puis là, le rugby marche très fort, et ils ont le rugby.
Qui coûte moins cher le rugby que la Coupe d'Europe.
Ça coûte moins cher, mais ça fait de grosses audiences aussi.
Ils ont la Formule 1 aussi.
Mais pour parler de foot, voilà, je trouve que c'est une perte terrible pour la Ligue 1. Sincèrement, je sais pas maintenant comment ils vont se retourner, ce qui va devenir. On sait que le Canal avait des moyens de faire entrer beaucoup d'argent grâce à leurs abonnés, en faisant une offre à 10€, je crois, si je me trompe pas.
Exactement, c'était 10€, alors
ils étaient pas d'accord sur le prix. Canal voulait 10€, et apparemment la Ligue voulait un prix à 20€.
En même temps, ils ont essayé jusqu'au bout, et apparemment, voilà, ils sont pas arrivés, ce qui est dommageable, évidemment.
T'as une autre lecture, frère?
Alors, moi, j'ai une autre lecture. Alors, j'ai cette lecture, évidemment. Évidemment, mais moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que Canal serait pas en train de faire un bras de fer en disant, les patrons, c'est nous, on va dicter notre loi.
Je pense que c'est pas fini, alors.
Ben, honnêtement, on peut se poser la question,
en tout cas.
Vu les discours, on n'est pas d'accord. En fait, Saada, il explique. Il dit, on n'est pas d'accord sur les prix, nous, on préfère que ce soit moins cher, on aurait mis moins d'argent, etc. Donc, quand t'as cette lecture-là, tu te dis, mais t'es en phase de négociation, en fait. En fait, on est en train d'expliquer à tout le monde, le patron c'est moi, je veux que ça se passe comme ça, et à partir de là...
C'est pas faux, ça peut être une sortie.
Ça pourrait être...
Est-ce qu'il y a vraiment le temps de négocier? Oui, nous sommes le 28 juin,
est-ce que c'est pas le meilleur moment pour négocier?
Ça, tu as raison, je cite Maxime Saada dans l'équipe, nous avons choisi de renoncer à date, nous considérons que les conditions ne sont pas réunies pour que Canal distribue la nouvelle plateforme de la Ligue 1, et en gros, il dit qu'ils veulent... justement se désengager très vite pour permettre l'avancée des négociations avec d'autres. Donc, en gros, beau joueur. Mais ce qui est un peu plus loin dans cette interview.
Vous voulez 4 ans ferme aussi. Canal Plus voulait 4 ans ferme et la Ligue nationale disait qu'au bout de 2 ans, ils pouvaient enlever. Donc, je pense qu'il y a un gros bras de fer.
Il y a un énorme bras de fer
entre Canal
et la Ligue est aux abois, là. La Ligue est aux abois.
Il dit, Maxime Saada, trop de sujets nous séparent aujourd'hui, entre Canal et la Ligue, vous l'avez bien compris, et nous ne souhaitons pas ralentir le processus de lancement de la chaîne.
Mais honnêtement, ça ne ressemble pas à des négociations et un bras de fer en disant...
Ça ressemble à une porte ouverte.
Oui, ça ressemble à une porte ouverte, ça ressemble à une négociation. Justement. Et c'est en train d'essayer d'expliquer que tant qu'on n'aura pas tout pour Canal, demande Canal, eh bien, il ne se passera rien.
T'as raison. Je pense qu'il y a un bras de fer qui n'est pas terminé.
Et au bout d'un moment, il va falloir accepter que... la position de force, que Canal sera toujours en position de force. Ça a été la vache allée du football français pendant des années. Je pense que du côté de Canal, on a fait ses comptes, on s'est rendu compte qu'on avait payé bien trop cher par la force de l'habitude un produit qu'on a tenté de valoriser à des sommes complètement farfelues. Le péché originel, c'est celui des présidents de clubs qui ont voulu se faire croire que les matchs de leurs équipes pouvaient générer autant de revenus. Maxime Saada, moi ce qui me rassure dans cette histoire, c'est que désormais face à Maxime Saada, t'as un Nicolas de Taverneau qui, on connaît son parcours, connaît très bien les impératifs de rentabilité, les coûts de production, et il a pas dû tomber de l'échelle. Il s'est dit bon, peut-être que je pense que Canal garde une force d'attraction dans le savoir-faire. Voilà, Canal, ça reste la référence en termes de production de retransmission de sport. Donc, Nicolas Taverneau, je pense qu'il s'est dit, si c'est Canal, je pense que les gens, 20€, et pour Canal, les gens sont prêts à les mettre.
Attention, c'est de la distribution de chaîne. Canal ne va pas mettre les mains dans le cambouis.
D'accord, malgré tout, t'associes la marque Canal à ça.
Et pour les abonnés, 20€, c'est cher.
C'est moins cher que 30 ou 40.
Un abonné Canal, il paye déjà très cher.
Mais Maxime Saada, il a raison, il fait ses comptes, il regarde, il s'en sort avec la Ligue des Champions, il n'est pas prêt
revanche sur la Ligue 1 aussi en disant on fait plier maintenant, c'est nous les patrons, plié, vous nous avez entubé avant, cette fois c'est nous qui avons décidé.
Il dit on a un savoir-faire mais on veut travailler sur la durée, il dit nous on veut minimum 4 ans, alors que là l'option c'est qu'au bout de 2 ans ils peuvent les dégager, donc c'est un vrai bras de fer actuellement.
Moi je le pense aussi.
Ok les amis, sachez que toutes les dernières informations sont à retrouver sur rmcsport.fr si vous voulez en savoir plus sur ce dossier, j'allais dire palpitant mais aussi angoissant malheureusement pour le foot français, pour les joueurs, pour les présidents, pour les supporters, avec cette création de cette nouvelle chaîne. Évidemment, et on vous donnera d'autres informations dès que nous en aurons.
Et pendant ce temps, les Six Nations signe à nouveau
reste sur France Télévisions.
Ouais, il y a eu un doute avec TF1 qui s'est positionné dans l'appel d'offres.
Oui, appel d'offres. Oui.
Et ils ont France Télévisions
sur le basket, excusez-nous.
Aura les droits. Oui, chacun est pour sa crèmerie là. En tout cas, pour cette information, le Six Nations reste sur France Télévisions jusqu'en 2029.
Oui, c'est ça.
Exactement. Et tu veux nous dire sur le basket, sur TF1?
Ben nous aussi. On a l'Euro qui est passé sur le groupe TF1, sur TMC notamment, et qui passera sur TMC aussi.
Alors, il y a quelque chose qui est incroyable là-dedans, c'est qu'en fait, tous ces sports-là, on vient de tout ça, c'est sur RMC.
Mais évidemment. Voilà. Et en plus,
le rugby,
avec
le foot, la Formule 1, le basket, le ping-pong, le judo.
Et sur le digital pour la Coupe du Monde des clubs.
Le ping-pong, le cricket, le hockey subaquatique, la pétanque,
le haka de Denis Charles,
les dominos, le golf, tout est sur RMC.
T'as dit le basket?
Oui. Non, j'ai parlé de sport là.
Ouais.
11h40, on se retrouve dans quelques instants pour le débat caché. Vous ne savez rien. Et pourtant, vous allez devoir vous étriper. Oh oui, sur ce sujet hautement important, hautement politique peut-être aussi. Ah, je ne sais pas. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h42, de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission tous les samedis et dimanches de 9h à midi, toujours avec Denis Charvet, Simon Dutin, Philippe Saint-André, Fred Weiss. Aujourd'hui, sachez qu'à partir de midi, les paris RMC autour de la Coupe du Monde des clubs, autour du top 14 évidemment. Denis, tu restes avec nous quelques minutes à midi pour nous parler du bébé Stade
Toulousain avec Philippe, il est ravi.
Avec Philippe,
il va te dire match nul à la mi-temps, Denis, ce soir.
Oui, il a 12.
Bien sûr.
Ça va être serré à plus de la mi-temps.
Sachez que c'est un match extrêmement serré au niveau des cotes. Donc on vous attend évidemment à partir de midi. Et vous aussi, supporters toulousains, supporters de l'UBB, venez nous donner votre ticket avec toute la Dream Team des Paris RMC. Ça, c'est à partir de midi. Une information très importante à vous donner. Sachez que Fabio Quartararo partira en pole position du Grand Prix des Pays-Bas. Ce sera demain. Ce sera évidemment à suivre sur RMC. Une nouvelle pole position pour Fabio Quartararo. Et on espère une première victoire cette saison. Il est parti en pole au Grand Prix de France, nous y étions, et malheureusement il avait chuté, alors c'était un autre Français qui s'était imposé, c'était Johan Zarco, mais voilà, on espère que tout va bien se passer pour notre ami Fabio Quartararo. Toutes les dernières informations sur rmcsport.fr. Avant le débat caché, nous allons accueillir le grand gagnant ce matin, il s'appelle Elliot. Salut Elliot.
Salut Elliot.
Enfin, avant d'être le grand gagnant, parce que oui, tu as participé à un jeu, je vais le rappeler dans quelques instants, autour du Tour de France, mais il faut bien répondre à cette question. Qui est ta GG préférée? Attention, les mauvaises réponses peuvent annuler le cadeau. Qui est ta GG préférée?
Simon.
Merci, bien sûr.
Simon Dutin.
Mauvaise réponse.
Est-ce qu'on valide cette réponse, Fred?
C'est la pire possible. C'est la pire possible.
On valide pas, Philippe?
Si, on valide. Ah, oui. Oh, merci, bon. Philippe.
Merci Elliot, c'est dommage. Évidemment, tu as remporté un magnifique cadeau. Ce sera le 8 juillet prochain. Tu vas aller sur le Tour de France avec notre partenaire Skoda.
Merci bien.
Bravo Elliot. Tu habites où, Elliot?
À Ferrel, dans le Morbihan.
À Ferrel dans le Morbihan. Alors tu sais que cette étape se déroulera entre Amiens Métropole et Rouen. Tu vas aller avec qui?
Avec un copain du vélo.
Ok, alors tu vas te régaler. Tu veux que je rappelle tout ce que tu as gagné? Parce que la liste est longue.
Plaisir,
hein.
Oui.
Alors, tu vas arriver un jour avant l'étape. Ok, là tu auras le dîner, la nuit, dans un bel hôtel. C'est ce qu'on me dit, hein, dans un bel hôtel. Ouais. Après, tu placeras le curseur où tu veux, mais dans un bel hôtel. Le jour de l'étape, tu auras une petite sortie vélo avec les ambassadeurs de la marque. Ça va? T'es bien au niveau vélo?
Ouais, ça devrait le faire.
Ok. Ensuite, tu as la visite du village départ et des paddocks. Tu as le départ en amont des coureurs, évidemment, avec la voiture Skoda. Ensuite, tu t'arrêtes sur le parcours pour voir passer les coureurs. C'est toujours sympa. Tu as le survol du peloton en hélicoptère. T'as déjà fait l'hélicoptère?
Non.
Ça
va être le baptême.
Ok, ton baptême de l'air donc. Ensuite, tu reprends la voiture, tu déjeunes, parce que c'est important de déjeuner quand on est sur le Tour de France. Village arrivé, donc à Rouen, pour l'arrivée du peloton. Et ensuite, tu passes la nuit dans l'hôtel VIP, voilà, de Rouen.
Et avant ça, tu dois réveiller Christophe Cessieux de sa sieste. Ça, c'est le seul, seul truc relou.
C'est bon fait.
Alors, sache, mon cher Elliot, que évidemment, le camion RMC sera à Rouen pour l'étape de ce jour-là, le mardi 8 juillet. Donc, tu pourras venir parler avec les copains sur RMC. Franchement, c'est un très, très beau cadeau pour cette étape du Tour de France, le magnifique pack. Skoda, tu vas y aller avec un ami. On est très heureux pour toi. Tu vas aller voir d'autres étapes ou pas?
Oh, pas sûr, non.
Non?
Il y a du boulot partout, quoi.
Eh oui, il faut quand même travailler un petit peu.
Bah,
en tout cas,
peu,
tu es pris deux jours. Merci beaucoup et on est très heureux de t'avoir offert sur RMC dans les grandes gueules du sport ce très beau cadeau autour du Tour de France. Dispositif exceptionnel comme toutes les années. À partir de samedi prochain, toute l'équipe du Tour autour de Christophe Cessieux seront en direct jusqu'à pas d'heure pour vous faire vivre au plus près ce Tour de France 2025. Allez, tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Écoutez RMC et tentez de gagner un pack VIP inoubliable pour deux personnes au cœur du Tour de France avec Skoda, partenaire majeur.
Skoda.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre, vous le savez, sur l'émotion, sur la sensation, sur le sentiment. Je veux vous entendre, mes GG. Parlez avec votre cœur, Denis, votre cœur d'homme.
Oui.
Parce que dans un cœur d'homme, il y a le cœur et il y a le... De sportif. Il y a le cœur d'homme et le cœur, c'est très important pour la vie.
D'accord.
Parce qu'il y a du sang et il faut qu'il batte. Sinon, s'il bat pas, t'es mort. Et si t'es mort, c'est pas bien parce que tu peux pas faire les GG. Le débat caché du jour.
Tu deviens dingue.
Plus pour très longtemps. C'est ça.
Dans une minute, vous découvrirez le nom du nouveau président ou de la nouvelle présidente de la République.
Qui sera à la tête de l'État pendant les 5 prochaines années? Réponse dans moins de 10 secondes.
Teddy Riner
est élu président de la République française avec 65,5% des voix.
C'est fou! On m'avait pas prévenu. Teddy Riner est le nouveau président de la République. Alors, c'est une possibilité. Va-t-il vraiment se lancer en politique? Le 19 mai dernier, on en avait parlé dans cette émission, il ne cachait pas son ambition, extrêmement élevée, s'il devait franchir le Rubicon un jour. C'était sur BFM TV.
Je ne ferme aucune porte. Moi, je suis épicurien. Ça veut dire que si demain je me lance dans quelque chose, je le ferai bien. Et je le ferai pour une cause. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai, souvent on me pose la question, on me dit « Oh, vous verrez bien ministre des Sports ». Mais pourquoi toujours réduire le sportif
au sport. Alors, question de journaliste politique, quand vous voyez Emmanuel Macron travailler la présidence de la République, Teddy Riner, vous vous dites, c'est un bel engagement?
Ben voilà, vous voyez le champion que je suis. Si demain je rentre en politique, c'est pas pour être ministre des Sports.
C'est pour être président de la République.
Bien sûr. Allez. Moi, quand je fais quelque chose, c'est pour gagner, c'est pour emmener des choses, une locomotive.
Alors, nouvel épisode cette semaine, les amis, à 2 ans de l'élection présidentielle de 2027, une enquête de Harris Interactive réalisée par Comstrat et l'Opinion a pu mesurer son potentiel électoral à Teddy Riner. Et vous allez le voir, là aussi, il est élevé. À la question, si la prochaine élection présidentielle en France avait lieu ce dimanche, pourriez-vous voter pour chacune des personnalités suivantes? 18% des sondés ont répondu oui pour Teddy Riner. Alors, ça se situe devant Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez, 16% chacun, au même niveau que Bernard Cazeneuve et Éric Zemmour, juste en dessous des anciens présidents de la République, François Hollande, 19%, Nicolas Sarkozy, 20%, assez loin tout de même, de Jordan Bardella et Marine Le Pen, 38% et 39%. Notre débat, en voyant ce sondage, qui peut donner des ailes, comme une célèbre boisson énergisante, est-ce que Teddy Riner peut vraiment y aller? Oui ou non? Simon Dutin.
Ah non, non, non.
Pitié. Fred Weiss.
Pitié non,
carrément. Philippe Saint-André.
Non.
Non plus. Denis Charvet.
Non.
Oh là là, absolument pas convaincu. Les GG, qui a envie de commencer sur ce débat? Pitié non, Fred Weiss.
Pitié non, parce que c'est un vrai métier, homme politique. Et les votes qui ont eu lieu, c'est grâce à sa popularité. Donc effectivement, il est très populaire. Et c'est normal qu'on aime ce personnage, qui est un énorme personnage du sport et un personnage public français. Mais on parle de politique, on parle de programme, on parle de faire des choses pour la France, d'avoir cette être investi d'une mission. Moi, je connais pas le programme. En fait, pour l'instant, on vote pour un homme. Et quand on vote pour un homme, c'est logique qu'on prenne les personnes, un homme avec un grand H, évidemment, qu'on prenne les personnes qu'on aime. Sauf que là, on sera sur autre chose. On sera sur un programme politique. On sera sur un vrai travail. Quelque chose qu'il ne connaît pas forcément. Alors, je dis pas que s'il passait pas, s'il devenait maire d'une ville, ensuite député, ou sénateur, peu importe, mais qu'il passe par les urnes, ça me pose pas de problème. Mais je trouve que d'un seul coup, se projeter en étant président de la République, ça serait faire un saut qui serait beaucoup trop important. Il nous faut des hommes politiques de stature. On a difficilement des hommes politiques de stature, déjà. Donc, ne prenons pas une personne qui n'y connaît rien.
Je suis totalement sur la même ligne que Fred. Ça dit quelque chose du rapport que notre société entretient désormais avec la politique. On est dans le monde de l'image, on est dans le monde de l'émetteur, en effet. Mais on oublie quand même trop souvent avec les débats dont nous aussi, les médias, nous sommes comptables que... Fred l'a dit, c'est un vrai métier, c'est un métier très difficile, c'est un métier ultra technique, on pense ce qu'on veut de notre président actuel, mais souvenez-vous, il était allé à la rencontre des élus locaux, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu droit à des retransmissions pendant 8 heures, assis sur une botte de foin, il répondait à toutes les questions. Il faut, ça demande une connaissance des sujets et d'une variété de sujets. Donc moi je remets pas en question le talent, l'intelligence, l'appétit de Teddy Riner. Il a raison de vouloir s'intéresser à autre chose que le sport et à mettre sa popularité au service d'autre chose que le simple cadre du sport. Mais bon, je sais pas, moi je l'attends sur la bioéthique, la cybersécurité, la dissuasion nucléaire, la transition énergétique. Enfin je veux dire, voilà, faut aller tenir tête à des présidents étrangers. Je pense que ça s'improvise pas. Et élu local, très souvent, si tu regardes, tu interroges les gens votent pas pour les mêmes couleurs pour leur ville. Il y a un vote beaucoup plus pragmatique que pour le président de la République. Alors évidemment, il y a des staffs, il y a des conseillers partout. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut avoir roulé sa bosse dans des sujets, encore une fois, qui demandent une précision. Et une connaissance absolument.
Mais est-ce que c'est un sujet, Teddy Riner, la présidence? Je ne crois pas. Je crois que c'est une vraie rigolade, moi. Je ne pense pas qu'une seconde qui puisse être sérieux.
Une sorte de troll géant, quoi.
Non, mais ça rentre dans un jeu entre les médias et lui, une espèce de communication comme ça, spontanée, et puis là, il en joue.
En même temps, dans ces cas-là, souvent, on allume la petite mèche et on voit comment ça retombe, et comme ça, on se dit, ça après, permet de réfléchir.
Oui, mais après, on continue avec les sondages, on entretient la tu vois, le...
Mais c'est ce qu'il veut, peut-être. Il veut voir si ça pourrait marcher. Ouais.
Oui, mais il vit pour son égo. Si tu veux, tout simplement.
Ah, tu penses?
Et si ça marchait,
oui,
moi, je pense. Ça
mais ça marchait, mais il ira jamais quand même.
Moi, c'est une vraie question.
Mais, si ça mais la question centrale, elle est là. Est-ce qu'il est au fond de lui? Moi, je suis sûr qu'au fond de lui, jamais il ira. Ou alors, c'est qu'il est fou.
Attends, il pourrait avoir des envies.
Tu pourrais, t'as connu quoi prendre?
Avoir vous rendez compte politique, moi j'arrive à l'entendre, mais échelon par échelon, passons par les étapes.
Mais il a jamais été élu, il a jamais se présenté avec un parti, il a jamais même donné son opinion. Est-ce qu'il est de gauche ou de droite?
Ça serait marrant de voir son étiquette.
Ouais. Mais non, mais la vérité, est-ce que tu le sais, toi?
Non.
Eh bien voilà, donc déjà, c'est quand même la première, réponse qu'on aimerait avoir de lui.
Philippe Saint-André.
Ouais, mais déjà, dans la situation de la France, il faut un programme. Il faut réformer. Et puis en plus, il faut faire partie d'un système, parce que pour faire une campagne présidentielle, il y a des budgets.
Pareil, ouais.
Il y a toute une organisation. Donc là, il l'a sûrement dit à la cantonade. Par contre, les sondages sont bons, donc on peut s'apercevoir de la complexité et qu'actuellement, il y a pas grand monde.
Mais aussi parce qu'il y a pas d'étiquette.
Parce qu'il y a une vie aussi.
Il
doit choisir
une étiquette, ça sera divisé par deux déjà.
Et quasiment. Donc maintenant, s'il veut aller plus loin, il faut qu'il commence à se dévoiler.
Tout simplement.
Qu'est-ce que t'en penses, mon JC?
On aimerait avoir ton avis, toi aussi.
À 11h54, là, comme
oui,
ça,
oui, le premier
qui me demandait, c'était
Teddy Riner. Ça veut dire qu'il n'a pas d'avis, c'est pour
ça. J'ai un avis, je pense, et ça m'étonne d'ailleurs, mais je pense totalement comme toi, Denis, c'est-à-dire que je pense qu'il s'en amuse,
oui.
Et je pense qu'il jette la pièce tout de même. Absolument. Et il voit de quel côté elle retombe. C'est-à-dire que s'il sent un véritable engouement, ça peut peut-être le titiller.
Oui,
mais de là... S'il voit que l'argument est assez relatif, mais en revanche, je pense qu'il croit vraiment et pour le coup, grand bien lui fasse, mais il croit vraiment qu'il peut apporter des choses à la société française. Et nous, on est.
Mais ça, c'est sûr.
Mais ça, c'est, on n'en doute pas. Mais on dans son
et
registre,
il a pris position pour des débats de société. Voilà. Après, évidemment, président de la République, ça demande autre chose, peut-être d'autres compétences, mais je pense qu'il ne serait pas insensible. Le seul argument que je n'aime pas de Teddy Riner, c'est. Mais peut-être que c'est pour rire. Si c'est pour rire, ça va. Ouais, si il le pense sérieusement, ça me gêne un peu. C'est dire, moi, quand je fais quelque chose, c'est pour gagner.
Oui.
En fait, l'élection présidentielle, évidemment, c'est pour gagner. Mais s'il va dans cet esprit-là, je pense qu'il fera comme tous les hommes politiques de notre société. C'est que dès qu'il a gagné, après, il ne fait plus grand-chose. alors que. C'est... Mais non, mais tu veux gagner. Oui. Tu veux gagner pourquoi
oui,
tu veux
ouais.
gagner.
Gagner
oui,
pourquoi
si, en fait, si c'est pour l'objectif, c'est de gagner.
Oui, alors ça, son objectif, c'est gagner la présidence.
Tu veux changer des choses. Et en fait, c'est pas du sport, là. C'est de la politique. Et c'est même, tu réponds à des problèmes des Français. C'est dire, c'est pour gagner. T'as pas de médaille d'or si t'es président de la République. Tu as une chaîne, tout ça. Mais enfin, c'est.
Tout le monde est élu en tant que
de la République.
Tout le monde, en tant que citoyen, a son avis sur les grands débats de société. Encore une fois, quand tu mets les mains dans la caisse à outils et que t'es confronté. Voilà. Alors, la hausse de la CSG, machin, là, tu commences à saigner du nez. Enfin, je veux dire, encore une fois.
Enfin, il a le droit d'être entouré aussi. Enfin, je veux dire. Zelensky, il était acteur. De Donald Trump, pardon pour les exemples, mais bon, c'est des exemples récents, businessman et présentateur télé. Reagan, il était acteur, enfin, ça existait, des hommes qui étaient
Schwarzy, il a failli être président, Schwarzenegger.
Oui, oui.
Bah, il était
gouverneur.
Gouverneur de Californie, c'était pas rien.
Oui, c'est pas rien. Hein.
Mais oui.
Bah voilà.
Oui, mais non américain, donc pas présidentiable.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est pas présenté, je crois.
Ok. Bon, on suivra ce dossier Teddy Riner, évidemment. C'était pour le débat caché, évidemment. C'était pour rebondir à ce sondage cette semaine. Merci beaucoup, les GG.
Merci à toi, JC. C'est ma dernière à t'écouter. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc, je voulais te remercier pour toute la saison. Du fond du cœur, voilà, je te le dis.
Eh ben écoute, je t'aime très fort, Denis. Évidemment, tu vas partir en vacances tranquillement.
Oui, puis
ce soir, il y a une finale de Top 14 quand même.
Ah ben oui, on y sera là.
Tu pars que dimanche.
Avec Pierre Dorian.
Avec Pierre Dorian, écoute,
et Wilfried Templier, le dernier.
Paul Orsi en direct.
Et Nicolas, oui.
Du Stade de France, je t'aime très fort, mon Denis. On te retrouvera très vite.
Et Pierre Thévenet, pardon. N'oublions pas.
Merci, les amis. Demain, à partir de 9h, on débriefera évidemment cette finale du Top 14 et plein d'autres sujets. Allez, à tout de suite sur RMC, parce que votre programme continue avec les paris RMC autour de cette finale. Reste avec nous, Denis. Hein. Tu vas nous donner des paris quand même, si Dieu nous faire marrer. À tout de suite.